voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Clément rencontre Anne Kefelec. Ce soir, elle jouait du piano dehors.
Bonsoir Anne Kefelec.
Bonsoir.
Alors cette fois-ci, nous sommes toujours chez vous, à Maison Lafitte, mais nous sommes installés devant le piano. Merci, on aurait envie de vous entendre toute la journée jouer du piano. C'est un vrai bonheur. En même temps, c'était difficile de faire une émission avec vous sur le piano, sur la musique, sans jamais vous entendre. Donc c'est pour ça que vous avez eu la gentillesse.
Je vous pardonne, je comprends.
Vous nous dites ce que vous avez joué ?
Là, c'était juste la première partie d'une petite sonate de Scarlatti, si mineur, Kirkpatrick 27, pour donner le numéro. Parce qu'il y a quand même 555 sonates.
Merci. Je rappelle que vous avez à peu près tout enregistré, enfin surtout Scarlatti que vous avez réenregistré récemment, mais aussi Bach, mais aussi les Contemplations,
qui est un disque préféré. J'ai
beaucoup de choses.
Oui,
Mozart,
un certain nombre de, oui, évidemment, de
du Tilleux aussi.
Varié, oui,
enfin,
oui.
Voilà, une discographie, il y a une trentaine de disques, je crois, qui est...
40 maintenant, mais c'est pas...
40 maintenant,
on n'en est pas... Les chiffrages ne sont pas le plus important, non.
Mais vous avez une œuvre considérable qu'on peut écouter, que j'engage vivement les auditeurs à aller écouter. Alors, Anne Kefelec, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du public, parce que quand on vous entend jouer comme ça, on se demande, mais au fond, vous jouez pour qui? Est-ce que vous jouez d'abord pour vous, pour le plaisir de jouer? Ou est-ce que vous jouez en pensant à ceux qui vous écoutent? En général, on viendra en particulier après.
Ah, on jouait pour soi seul, à vrai dire non, parce que même quand on joue seul dans sa pièce, on s'adresse à quelqu'un, à quelque chose en soi, à d'autres en soi, aussi au départ, parce que c'est très particulier, dans l'art musical on est trois, il y a le compositeur, celui qui a créé l'œuvre, il y a celui qui joue, et il y a un public qui écoute et qui reçoit, et en fait moi quand je me sens vraiment au sommet de la grâce dans la musique, c'est lorsque j'ai la sensation, tout en jouant, de me transformer en public. Donc, que la musique circule et que je ne fais plus obstacle en tant que transmetteur entre l'œuvre et la personne qui écoute. C'est de plus en plus complexe cette question, pour qui on joue, parce que... je me rends compte de plus en plus à quel point, je l'ai un petit peu dit à la première émission, mais à quel point je suis dans une position privilégiée pour, comme disait Henri Michaud à propos de l'écriture, il disait « j'écris pour me parcourir ». Et j'ai la sensation quand je joue qu'en effet je parcours mon humanité et par la même occasion naturellement je parcours ce que c'est qu'un être humain et avec les autres aussi. Et dans le fait de jouer en public et de jouer devant une salle, c'est vrai que ce qu'apporte les écoutants, si l'on peut dire, les auditeurs, ils font acte de présence véritablement, et il y a dans la qualité de silence, pour peu qu'elle ne soit pas gâtée par des portables ou des tout malvenus évidemment, il y a dans ce silence habité, c'est une espèce de sculpture dans le fond pour le musicien. Cependant, on a l'impression qu'on va sculpter à la fois du temps et du silence. Et c'est vrai qu'il y a une communion à ce moment-là qui est extraordinairement émouvante et qui est un cadeau. Enfin, moi j'ai la sensation quand les gens après me remercient après un concert, oui. Je leur retourne aussi. J'ai cette reconnaissance d'avoir la chance de pouvoir être passeur de beauté, puisque je vis au quotidien avec la beauté.
Oui, mais quand vous jouez toute seule chez vous. En répétant ou en préparant un concert, vous jouez en pensant au public qui va vous écouter, vous jouez aussi pour le plaisir d'abord d'être à la perfection, d'améliorer votre jeu.
Ça, c'est pas forcément un plaisir seulement, évidemment. C'est un combat sans fin, oui. Une recherche, une quête. La fameuse inaccessible étoile, et tant mieux qu'elle soit inaccessible. Maintenant, je l'ai tout à fait acceptée, parce que je me dis, si on arrivait à se dire, bon, un beau jour, ça y est, j'aurais atteint mon but, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on n'a plus rien. Par contre, il est possible, c'est donné, parce que justement, c'est ça la grâce aussi. Tout à coup, dans un concert, on la touche, là, l'inaccessible étoile. Mais on ne peut pas le décréter avant. Oui. C'est donné ou pas. Et ça peut se passer à travers le public.
Vous avez parfois des surprises dans un concert, à des moments de grâce absolue, dont vous ne savez pas qu'ils vont advenir, d'ailleurs.
Non, bien sûr. À travers l'écoute aussi du public, en effet, on entend sortir de ses mains des silences différents, des façons de chanter aussi différentes. On prend plus de temps à certains moments, où on entend autrement certaines harmonies. Et c'est vrai que c'est totalement inexplicable, mais ça fait partie de la richesse infinie de la musique, puisque jamais une œuvre musicale ne peut être jouée deux fois de la même manière, même par la même personne. Donc on est dans la métamorphose permanente, le fameux vers de Baudelaire, la musique souvent me prend comme une mer. Il est extrêmement juste, parce que la musique est marine. Elle est marine dans le sens où elle est tout le temps en train de se métamorphoser, qu'elle soit sereine, qu'elle soit dans la tempête, qu'elle soit il y a le mouvement des marées naturellement, mais même pas seulement, même la mer Méditerranée n'est jamais la même, même s'il n'y a pas de marée. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et puis maintenant que vous disiez pour qui je jouais, maintenant je me rends compte aussi de plus en plus. Et ça, c'est très très important pour moi dans le contexte présent, que justement ce privilège que j'ai de vivre avec la beauté au quotidien, je trouve que dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est devenu ma devise. Liberté, égalité, fraternité, beauté. Il y a ce quatrième élément qui manque. Et moi, je l'ai, et je vois à travers l'exercice d'un art, et notamment de la musique, à quel point on peut vivre la fraternité et on peut vivre une forme de liberté et aussi une forme de vérité, puisque justement, c'est une vérité changeante. Mais moi, je sens... Et je sais que les auditeurs, quand ils sont émus, ils le ressentent aussi. Tout à coup, vous pouvez avoir des frissons véritablement physiques, à certains passages. Proust a merveilleusement bien parlé de ça aussi. Et ça, on ne peut pas mentir. C'est ce que dit aussi Solzhenitsyn, c'est irréfutable. C'est quelque chose qui... là, il y a une forme de vérité qui probablement correspond au cerveau profond en soi, à un morceau de soi qu'on reconnaît. Oui. Tout à coup, ça s'applique, c'est juste, et on dit, ah oui, c'est ça, et c'est au-delà des mots, évidemment, la musique va tellement plus loin, et donc, partager ça, approfondir cette fraternité, la renforcer à travers un concert, pour moi, c'est devenu absolument vital, et je pense que ça n'est pas, hélas, assez perçu comme tel par les hautes autorités, ceux qui sont aux manettes, et qui sont aux manettes notamment des finances, et par rapport à l'éducation musicale, par rapport au fait de répandre la pratique musicale chez les très jeunes. Il y a des clés à leur donner là pour la libération intérieure et leur développement, leur épanouissement.
Oui, vous étiez à la fin du mois de janvier aux Folles Journées de Nantes.
Oui.
Vous allez régulièrement, un endroit que vous aimez beaucoup. Et là, on a des foules considérables pendant 3 jours, plus maintenant, et ça s'essaime dans la région, viennent pour passer de concert en concert avec une qualité d'écoute tout à fait exceptionnelle. Et en même temps, des foules énormes dont certains ne connaissent pas bien la musique.
La moitié du public n'est jamais mis les pieds dans une salle de concert.
Oui, alors là, d'un seul coup, c'est encore une immersion. Comment vous vivez ces moments? Pourquoi vous êtes...
Alors là, je trouve en effet... profondément enthousiasmant que cette joie de partager. Et je me souviens que j'avais même fait la remarque à l'époque, Jean-Marc Ayrault était maire de Nantes, je lui avais dit, vous devriez faire dans les pharmacies une étude de marché. Je suis sûre que la consommation tranquillisante baisse en région nantaise pendant les 10 jours où se déroule la folle journée.
Je suis sûre que les médecins vont être remboursés par la sécurité sociale.
Absolument, et tous les médecins devraient prescrire tous les jours, voilà, chaque matin, un petit peu de Mozart, Bach, voilà. Et ça irait mieux. Et en effet, à la folle journée, il y a cette espèce de joie qu'on sent dans l'air palpable, et puis dans l'écoute, en effet, dans les salles, et le public y va de confiance maintenant, parce que il va même vers des œuvres qui ne sont pas très connues, répertoires rares, et ils sont prêts à tenter l'aventure, parce que il y a une espèce de dynamique de groupe, d'entraînement vers le beau, vers le haut. Et mon Dieu, je sais que la fameuse parole, vous savez, qu'il y avait, je ne sais plus quel patron de chaîne avait un jour parlé du temps de cerveau humain disponible, c'est atroce. Je ne voulais même pas dire son nom parce qu'il est breton, et ça me fait de la peine qu'un breton ait pu dire ça. Et cette parole est marchande, est atroce. Et là, le temps de cerveau humain disponible, eh bien, il va vers le haut, il va dans le bon sens. Et c'est vrai que pour nous, musiciens, c'est extraordinairement gratifiant. Et on joue après, à côté de ça, dans les prisons à Nantes, j'ai joué plusieurs fois.
Alors, il y a les folles journées, je rappelle que les folles journées ont lieu fin janvier, qu'elles rassemblent plus de 100 000, 150 000
plus la région, ça fait facilement 250 000.
On arrive à plus de 200 000.
Mais vous voyez, dans ces 250 000 personnes, il y en a trois qui, cette année, m'ont manqué. Ce sont les trois ministres, éducation, culture, santé. Parce qu'avant, je pensais culture seulement. Maintenant, je ratisse plus large, je me dis, ces trois-là devraient travailler en collaboration étroite, car d'abord, toutes et dans l'être humain, tout ça, nous sommes constitués par toutes ces dimensions. Et là, il y a une telle révélation, on peut dire, un tel enseignement à tirer d'une telle manifestation, parce qu'on voit bien, il y a plein d'enfants aussi, des classes entières qui sont emmenées. Je me rappelle cette fois-ci, par exemple, des petites filles absolument bouche bée, écoutant L'Oiseau de feu de Stravinsky. Elles étaient absolument saisies dès qu'il y avait les cuivres qui commençaient à s'emballer derrière l'orchestre. Ces petites filles-là, je suis sûre qu'elles sont marquées à vie par cette sensation-là. Et je vais plus loin, je suis convaincue que si un bon nombre, si un maximum d'enfants étaient mis en contact avec ces réalités-là, et il y en a un bon paquet qui n'irait pas en Syrie faire le djihad. Il faut donner accès aux enfants. Oui, et puis à ces zones inconnues d'eux-mêmes, tout à coup, qui entrent en vibration et qui leur révèlent des trésors qu'ils ne portaient en eux à leur insu.
Oui, bien sûr, il faut commencer très tôt.
Pardon d'être.
Je me souviens d'avoir parlé beaucoup avec Barenboim, qui a monté des jardins d'enfants musicaux à Berlin.
Oui, Barenboim, il fait des choses magnifiques.
C'est un chemin absolument nécessaire.
Oui, l'orchestre du Divin Orchestra, c'est aussi un symbole de paix très profond.
On parlait des grandes manifestations publiques et populaires, comme les folles journées. On parlait du travail solitaire quand vous travaillez pour vous-même et pour vos concerts à venir. Et puis, vous avez évoqué les prisons. Alors c'est vrai que vous êtes allé à Nantes à plusieurs reprises pour jouer devant des prisonniers. Oui. C'est une expérience qui vous a beaucoup touché,
mais vraiment, c'était vraiment bouleversant. Et c'était d'ailleurs très intelligemment préparé par le directeur de la prison en association avec René Martin.
C'est prison d'hommes, de femmes.
C'était des prisons d'hommes. Je ne sais pas pourquoi les prisons de femmes sont beaucoup moins visitées par les musiciens. Ça sera peut-être à suggérer, en effet. Oui. Lors d'une des séances, tout de même, il y a eu quelques femmes qui étaient en effet admises à écouter le concert aussi. Et c'est vrai que je me souviens, lors de la toute première visite, c'était la première fois que je mettais les pieds dans une prison. Et j'appréhendais parce que je ne savais pas comment j'allais ressentir cet enfermement. Et puis finalement, j'étais absolument saisie par la qualité d'écoute des détenus qui, auparavant, justement, c'était l'intelligence du directeur de la prison. Ils avaient eu accès à des CD. On leur avait aussi projeté un film. Il y avait eu un conférencier qui était venu aussi leur parler un peu des musiciens et des œuvres qu'ils allaient écouter. Donc, la terre avait été remuée. Et peut-être aussi, évidemment, ça avait aidé leur écoute. Après cela, à la fin donc de l'œuvre qui était jouée dans son entier, un des détenus ose se lever devant les autres. Alors c'est ça aussi que j'avais trouvé admirable, parce qu'il faut quand même assumer une telle question. Il dit pourquoi est-ce que les gestes des musiciens sont si beaux ? Et là, vous restez absolument les bras vous en tombent, parce que c'est une extraordinairement belle question en soi, et en plus elle est très juste, parce que justement je l'avais félicité, je lui avais dit qu'en effet il soulevait un point important: la beauté d'un geste correspond à un son précis qu'on veut donner, à un caractère, et que si c'est pour la frime, pour faire de l'effet, à ce moment-là, pour moi, le geste est moins beau parce qu'il n'est pas nécessaire, il faut qu'il soit nécessaire. Et là, il avait tout à fait compris, et un autre avait enchaîné, un petit jeune qui... Je sais pas ce qu'il avait fait pour être là, il devait avoir dans les 25 ans. Est-ce que quand vous jouez, vous mettez vos convictions et ce à quoi vous croyez dans la vie ? Donc, des questions, vous voyez, qui nécessitent qu'on ne réponde pas n'importe quoi. Alors que, comme ils disent, dehors, quand on parle des salles dans lesquelles, en effet, ça arrive qu'il y ait on demande au public, vous n'avez pas des questions, etc. À chaque fois, alors, les questions du dehors, et c'est toujours chiffrable, c'est-à-dire à quel âge vous avez commencé, combien d'heures vous travaillez par jour, question qui me rase profondément, et là n'est pas du tout le cœur du problème, alors qu'avec les détenus, tout de suite, on était dans l'essentiel, dans le vrai, et il y en avait un qui avait découvert les sonates de Beethoven en prison, et qui s'était pris de passion pour les sonates de Beethoven, et qui aussi osait devant les co-détenus dire l'hammer clavier opus 106, c'est quand même très difficile cette sonate, c'est quand même, qu'est-ce que vous en pensez, vous voyez, et ça c'est extrêmement réconfortant, on se sent utile là, à ce moment-là, quand j'étais dans ces moments avec eux, j'avais l'impression vraiment d'accomplir quelque chose de nécessaire, quelque chose où ma place était bonne. Et évidemment, je me sentais extrêmement privilégiée. Ça, je me sens de toute façon en dette pour toutes sortes de raisons sur cette planète. Et je sais que je mourrai débitrice. Je n'arriverai certainement pas à rendre, si l'on peut dire, tout ce que j'ai reçu. Mais enfin, en tous les cas, dans cette prison, c'est vrai que ça m'avait énormément touchée. Et il y avait eu le jour où des femmes avaient été aussi autorisées à venir. Et ça m'avait percé le cœur, parce que quand on nous a dit « il y a des femmes qui vont venir aujourd'hui », je m'attendais à voir des femmes d'entre 40 et 50 ans, grosso modo des adultes quand même, bien avec une certaine bouteille de vie, si l'on peut dire. Et j'avais vu débouler des gamines à vue de nez, elles devaient avoir à peine dépassé 18 ans. Et qui avaient quand même des têtes de caïd, je ne sais pas ce qu'elles avaient fait non plus, mais c'était très déchirant de voir ces jeunes femmes dont on sentait qu'évidemment, déjà, elles avaient connu et pratiqué de terribles violences. Et toujours est-il que j'avais joué, en me sentant à ce moment-là complètement hors sujet, le début d'une pièce de Handel, que je peux vous jouer là pour vous situer la chose. Je m'arrête. Bref, je commence ça. Et un de mes collègues musiciens qui était tout près de deux de ces jeunes femmes détenues entend une qui pousse du coude sa voisine et qui lui dit « Tu vas quand même pas te mettre à chialer. » Et ça aussi m'a évidemment énormément émue et touchée parce que je me suis dit que cette jeune femme, de sa vie, elle avait entendu quelque chose de semblable et que tout à coup elle était saisie et qu'elle était au fond en contact intérieurement avec elle, dans une zone d'elle-même qui n'avait pas encore vu le jour,
J'ai
jamais été
défriché.
éveillée. Oui. Et c'est là où on se dit vraiment, vraiment, il faudrait favoriser cela vraiment tout de suite à la naissance, enfin à la naissance, en tout cas in utero, de toute façon c'est l'ouïe qui se développe en premier, mais poursuivre ça après à travers la beauté, oui bien sûr.
Oui, c'est magnifique ce que vous racontez et ce que vous dites de ces rencontres dans les prisons. Je pense aussi, vous aimez bien aller dans les gares. Dans les gares où
Oui.
on a installé des pianos,
Je vais de
et
toute façon
où,
dans les gares, je
bien
suis
sûr, vous allez dans
obligée,
les
mais
gares parce que vous
j'adore, oui.
prenez beaucoup le train pour aller dans vos concerts, pour circuler en France ou ailleurs. Et voilà, il y a des pianos.
Oui.
Et vous m'avez dit que vous aimez bien parfois arriver
Ah
très en avance
oui.
pour jouer.
Je suis très reconnaissante à la personne. J'ai pas réussi à savoir. J'ai essayé de savoir, mais j'ai pas réussi à trouver qui a été à l'origine
Cette
de
belle
cette
idée.
idée, de ça, et qui a eu assez confiance dans ses semblables pour se dire, on va le risquer, on va bien voir. Et je me rappelle ma toute première réaction quand j'ai vu un piano à la gare Montparnasse. Je me suis dit, ça alors, c'est complètement surréaliste. Pour moi, c'était de voir en plus un vrai piano. C'est pas un clavier numérique, c'est un vrai piano droit qui n'est pas contre un mur, en plus, donc qui donne la sensation d'être une espèce de petite chose perdue dans un vaste espace, mais qui est fragile quand même. Et j'ai pensé tout de suite que ce serait abîmé. Or, ce qui me frappe en dehors du fait que c'est toujours pratiquement joué, qu'il y a pratiquement toujours quelqu'un qui joue,
Oui,
c'est que
oui.
le piano n'est pas vandalisé, n'est pas tagué, n'est pas abîmé, qu'il est respecté, le tabouret n'est pas lacéré. Et donc, comme s'il y avait une espèce de, par accord tacite, un respect envers cet objet qui est symbole d'autre chose, qui n'est plus la consommation, qui n'est plus le matérialisme, qui est gratuit. Il n'y a pas de cordon de sécurité autour du piano, il n'y a pas de chien de garde, il y a, tout un chacun peut y aller. Alors, et on entend de tout, on entend aussi
Oui,
bien des
et vous.
jazzmen furibonds que des petits enfants qui tâtonnent ou des petites jeunes filles qui recherchent des airs de jazz ou de variété, des petites chansons, que
Mais Anne
quelqu'un
Gueffelet,
qui travaille
quand
une
vous
étude de
allez dans,
Chopin.
oui, quand vous allez dans la gare et que vous arrivez une demi-heure, je sais pas,
Oui.
en avance, avec l'envie de jouer, là aussi, que je
Ah
reviens
oui,
à la
alors
question,
j'essaye
vous jouez
d'arriver plus
pour
tôt, en
qui, quoi?
effet.
Vous jouez pour qui? Vous jouez pour entendre ceux qui sont là ou vous, évidemment, c'est
Ah non, non, mais
tout le
parce que
monde va se rendre
je
compte
trouve.
quand
Ah
vous
non,
vous
non.
installez que vous êtes une pianiste
Non,
d'une
c'est
qualité
pas si clair et
différente,
net.
non?
C'est ça qui est amusant. Non, non. Alors déjà, j'attends patiemment que le piano se libère. Et
Mais
puis,
vous écoutez aussi ce qui se
j'écoute,
joue.
bien sûr, j'écoute
Et vous n'avez
aussi,
pas
je
envie de leur
m'approche.
dire, attendez, là c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ah non,
Donner une leçon de
je dis
piano,
pas ça.
non.
Non, 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 je les félicite toujours. Je dis, c'est très, très. Je me souviens une fois d'un père de famille qui justement se battait avec une étude de Chopin et ses trois enfants autour de lui. Un jour de grand départ à la gare de Lyon et il recommençait indéfiniment le même passage. Il faisait toujours les mêmes fautes. Mais je l'avais félicité. Je lui ai dit, vous avez raison. Ça vous acharnez comme ça, c'est vrai. Mais c'est très, très difficile cette étude de Chopin. Alors ça l'avait amusé. Sinon, non. Et
Et alors
moi-même,
après vous
quand
vous
je joue,
asseyez,
oui, je joue.
vous jouez quoi? Vous jouez ce qui vous
Alors,
passe par la
ça m'arrive de
tête?
jouer un choral de Bach à la gare du Nord, ça c'est assez drôle, ça fait quand même un drôle d'effet, parce qu'à mon avis, ça n'arrive jamais, quoique Bach résonne dans la gare du Nord, comme ça, joué sur un piano. Mais
Et les
les
gens,
personnes, après, ça les intrigue quand même, mais.
les promeneurs quand même entendent qu'ils ont
Ah
affaire
oui,
à,
ils s'arrêtent, ils
oui, à une
écoutent.
pianiste professionnelle.
Et là, on sent justement le fameux lien social dont on dit tellement qu'il faut le retisser. Il est facile à ce moment-là à tisser. Il y a plus de barrières, les gens, même entre eux, se sourient ils sont touchés. Et après, ils me disent. Ah, alors soit, oh, ça fait du bien, ça c'est une parole qu'on entend souvent, ah, ce que ça fait du bien, alors que moi ça me paraît facile de faire du bien vraiment, et puis quel bonheur, mais est-ce que c'est votre métier? Et ils sont pas sûrs, ils sont pas
Ils sont pas
sûrs,
sûrs. Et
et
quand même, ça les intrigue un
je
peu.
finis par le dire quand même, je
Ah
raconte
oui.
pas de craque, mais c'est vrai que c'est un autre. On est de plein pied vraiment à ce moment-là.
Oui.
Et puis c'est pas un fond sonore. Dieu sait que la musique, elle nous bassine, la musique entre guillemets, partout où on va, ça vous poisse les oreilles.
Mais c'est vivant. Ce qu'on appelle la musique d'aéroport.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est aussi ce qui est beau, c'est qu'on sort des écrans. On n'est plus dans le virtuel, on est dans la vie, on est dans le réel, dans le partage. Et c'est vrai qu'on est tellement cerné maintenant par les écrans qui à la fois montrent et cachent. Enfin, c'est compliqué. Ça.
C'est compliqué.
Et là, c'est du vrai.
C'est du vrai. Donc, et vous avez envie de poursuivre ou de prolonger ou de développer ces expériences dans des lieux comme ça, des lieux un peu au hasard des rencontres.
Oui,
on a parlé des prisons, là, c'est une volonté, mais d'aller dans les hôpitaux, d'aller dans
les... Je l'ai fait, dans une unité gériatrique où il y avait prédominance de malades d'Alzheimer. Et là, c'était aussi très émouvant parce que je jouais certaines pièces plutôt connues et qui donc pouvaient, et il semble que ce soit la dernière zone du cerveau qui fasse naufrage au moment dans la maladie d'Alzheimer, c'est la zone de la musique, la mémoire de la musique, la mémoire des chansons, des airs, comme on dit. Et certains se mettaient à fredonner des thèmes à ce moment-là, ou à sourire. Et les infirmières après me disaient qu'ils voyaient passer sur leur visage des expressions qu'en principe, ils n'avaient plus du tout. Et donc, il y avait une espèce de retrouvaille très, très profonde et mystérieuse et secrète qui se passait à travers la musique pour eux. Et c'est
magnifique à ce moment-là.
Oui.
Je vais passer presque d'un extrême à l'autre, quoi. Et les grands concerts dans lesquels vous savez pour vous que c'est très important qu'il y ait un public aussi très nombreux. Je ne sais pas si vous jouez à la Philharmonie en soliste.
J'ai joué dans des salles équivalentes
Comment vous approchez ce genre d'événement? Est-ce que ça vous procure?
Pour moi, de toute façon, le public n'est pas une masse indifférenciée. Déjà, j'aime pas masse. Le mot masse, je déteste. Je n'aime pas le mot carrière non plus. Donc, des mots assez courants. Je vis ce métier comme des rencontres avec des semblables, avec mes semblables, avec mes frères humains, je peux dire, comme Villon. Et dans une salle de concert, pour moi, c'est même s'il y a 3000 personnes, je sais qu'il y a 3000 personnes avec chacun leur vécu, leurs soucis, leur joie, enfin leur trésor, leur fort intérieur à eux, chacun qui est unique, et que ça s'adresse à chacun en particulier. Je vois beaucoup plus ça comme d'être à être, de cœur à cœur, comme disait Beethoven, là, de venue du cœur qu'elle aille au cœur en parlant de sa musique. Et c'est vrai que ça n'est pas, et moi-même en tant que quand je suis auditrice dans un public, je me sens à la fois dans le partage, dans la communion, et en même temps dans la prise directe avec celui qui est en train de jouer. Et c'est très étrange ce mélange de singulier et d'universel qu'on vit dans la musique.
Bien, on va rester sur cette jolie phrase. Merci Anne Kafelek.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Anne Kafelek. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Patrice Klein, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.